Connaissances et témoignages. Présenté par Anne Bernet, l'abbé Guérin.
Bonjour, nous sommes avec Mgr Laurent Perceroux, évêque de Moulins, qui nous fait l'honneur d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonjour Mgr.
Bonjour Madame.
Vous êtes Mgr évêque de Moulins depuis le mois de février 2013, le pape Benoît XVI vous ayant nommé quelques semaines avant sa renonciation. L'Allier a la réputation d'être un diocèse un peu difficile, déchristianisé. N'avez-vous pas eu le sentiment que le Saint-Père vous avait confié une mission impossible?
Quand j'ai été nommé évêque de Moulins et que le nonce apostolique m'a présenté le diocèse, il ne me l'a pas présenté comme un diocèse difficile. Par contre, c'est vrai qu'il m'a dit que le diocèse de Moulins était un diocèse rural qui avait une histoire un peu particulière qui expliquait que l'Église catholique dans l'Allier, c'est vrai, n'était pas l'Église catholique de Vendée ou encore de Bretagne. C'est-à-dire qu'historiquement, cette terre, pour des raisons souvent politiques, n'avait jamais vraiment été très touchée par l'Évangile. Et je crois que les diocèses de France, c'est un peu cela, c'est-à-dire qu'ils sont très liés à l'histoire d'un peuple, à l'histoire d'un terroir. Nous, ici, l'Allier, c'est un territoire rural avec trois agglomérations, Moulins, Vichy, Montluçon, et un territoire rural qui, après la Révolution française, a connu un régime agricole qui était le régime du métayage, donc un système d'organisation sociale où les métayers étaient vraiment dominés sous la coupe des propriétaires terriens. Et c'est vrai que les idées du 19e siècle, le marxisme, a beaucoup imprégné notre territoire rural, compte tenu des difficultés sociales. Et le communisme rural est né ici dans l'Allier, et le premier syndicat agricole est né d'ailleurs ici dans ce département. Et donc, c'est vrai, l'Église catholique a eu du mal à trouver sa place. Mais je ne dirais pas que c'est un diocèse difficile, parce que c'est un diocèse extrêmement attachant, qui aujourd'hui, comme un bon nombre de départements ruraux, connaît des difficultés liées aux difficultés du monde agricole. Un département situé au centre de la France, mais qui est un peu loin des grands axes de communication, et qui donc a parfois le sentiment de se sentir oublié. Mais là, moi, je sors de 3 ans de visite pastorale des paroisses du département, du diocèse, où j'ai découvert beaucoup de dynamisme et beaucoup d'esprit de créativité. On sent que l'Esprit Saint souffle vraiment dans les communautés pour qu'avec nos forces et avec nos moyens, qui ne sont pas énormes, eh bien, nous puissions témoigner de l'Évangile. Donc, je n'ai pas eu le sentiment que c'était mission impossible. Moi, j'ai fait confiance au Seigneur. Il nous donne toujours la force d'accomplir ce qu'il nous demande. Et mission impossible, moi, j'ai dans l'oreille ce que l'ange Gabriel a dit à Marie au jour de l'Annonciation. Rien n'est impossible à Dieu. Or, pour Marie, c'était mission impossible quand même.
Par conséquent, mon Seigneur, vous êtes un évêque heureux.
Complètement. Complètement heureux parce que je participe à la croissance de l'Église dans cette terre. J'essaie de la conduire sur les chemins de l'Évangile. J'essaie de fortifier les communautés, de les encourager et de faire en sorte que, avec nos moyens, là encore, qui ne sont pas considérables, mais je crois que ça doit être à peu près la même chose en Mayenne, je connais bien votre évêque, eh bien, l'Évangile retentisse et puis rejoigne le cœur de celles et ceux qui vivent ici dans l'Allier.
J'allais dire, Monseigneur, que les difficultés étaient parfois paradoxalement porteuses d'espoir et de fruits.
Oui, parce que, comment vous dire, je crois que quand on est devant une difficulté, on a le choix. Soit on s'assoit au pied du mur et puis on pleure, puis on s'arrête. Soit au contraire, on se demande comment franchir l'obstacle. Vous savez, l'Église, elle a plus de 2000 ans. Et quand Jésus a appelé Pierre à devenir le chef des apôtres, il lui a dit qu'il lui donnait le pouvoir de conduire l'Église et que les puissances du mal n'auraient sur elle aucun pouvoir. Je crois que c'est notre espérance. Et puis il a dit au jour de l'Ascension, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Je crois que nous, les chrétiens, nous avons au cœur cette espérance et cette certitude que le Christ est présent avec nous par son Esprit Saint et que les temps sont ce qu'ils sont. Et l'Église, Dieu sait si elle a traversé des épreuves tout au long de son histoire. L'Esprit Saint n'a jamais manqué à l'Église. Et donc nous, ce que nous avons à faire, c'est de mesurer les épreuves auxquelles nous sommes affrontés, les défis qui nous sont lancés, et puis essayer de trouver par la force de l'esprit les moyens pour les traverser et les dépasser. Et puis aussi, je crois, repérer tous ces signes d'espérance qui jaillissent là au cœur de nos communautés chrétiennes, qu'elles soient paroissiales, que ce soit dans les mouvements d'église. Tous ces petits signes d'espérance qui nous disent que le Seigneur est avec nous et qu'il faut poursuivre la route.
Justement, Monseigneur, quel défi avez-vous relevé? Quels sont vos chantiers prioritaires dans votre rôle de jeune évêque?
Alors moi, quand je suis arrivé dans l'Allier, mon prédécesseur, Mgr Pascal Roland, qui est aujourd'hui évêque de Béléars, avait lancé un grand audit pour faire un petit peu le point de la situation de son diocèse. Un audit sur la pratique dominicale, les tranches d'âge que l'Église touchait aujourd'hui, pour mesurer aussi les difficultés économiques et financières, et puis pour essayer un peu de se projeter, de se dire, mais qu'est-ce qu'il nous faut ouvrir comme route pour que le diocèse de Moulins, malgré ses difficultés, puisse poursuivre le chemin? L'audit avait été un peu rude, hein, avait révélé des indicateurs assez inquiétants sur le plan du taux de pratique, sur le plan des populations que nous rejoignons, sur le plan économique aussi. Et puis, il est parti à Béléars au moment où il devait donner des orientations au diocèse. Et donc moi, je suis arrivé et il m'est revenu de recevoir cet audit et d'essayer de dégager des priorités pour le diocèse. Et donc, un an après mon arrivée, j'ai donc écrit une lettre pastorale aux diocésains en deux parties. La première partie, c'était sur l'espérance, gardons espérance, que c'est vrai que les diocésains étaient un peu inquiets des perspectives que cet audit pouvait dégager.
Évidemment.
En leur donnant comme exemple la période du peuple d'Israël en exil à Babylone, et comment le peuple avait gardé espérance, et comment Dieu était venu relever le peuple et lui rendre la terre promise, la terre sainte, Jérusalem. Donc alors disant voilà, aujourd'hui c'est le temps de l'espérance, le temps de l'épreuve, mais le temps de l'espérance, le Seigneur est avec nous. Et appuyons-nous sur le Christ. Et puis une deuxième partie où j'essayais de donner 8 priorités. Je ne vais pas vous les égrener toutes. En tout cas là, ça fait 3 ans que nous venons de travailler sur les paroisses. Parce que je crois que les paroisses sont à l'avant-garde de l'évangélisation aujourd'hui, le lieu où nous touchons les gens dans la réalité de leur vie, dans la réalité de ce qu'ils sont, que ce soit à partir des demandes sacramentelles, de la catéchèse, que ce soit aussi à partir du contact fraternel que les catholiques ont dans les villages et les villes du diocèse, dans ce service de la fraternité qui est vraiment le service de la paroisse. Et là, on a les paroisses, on travaillait pendant 1 an sur un projet pastoral missionnaire. J'ai reconnu ces projets pastoraux missionnaires il y a maintenant 1 an et demi. Je les ai promulgués de manière à ce que chaque paroisse puisse avoir un horizon missionnaire sur lequel avancer. J'ai terminé mes 3 années de visite pastorale de paroisse et là, je viens de sortir une lettre aux diocésains qui fait le bilan de ces visites pastorales et qui leur donne quelques caps. Et je commence, à compter du mois prochain, des visites pastorales pour les jeunes. Je vais aller à la rencontre de tous les groupes de jeunes catholiques du diocèse pendant 2 ans et je vais aussi aller rencontrer un certain nombre d'associations qui existent dans le département et qui cherchent à aider les jeunes à s'insérer, à trouver un emploi, etc. Parce que je crois que les jeunes sont, comme le disait le pape Jean-Paul II, l'avenir du monde et l'espérance de l'Église. Et c'est aussi eux qui demain seront amenés, et je l'espère qu'ils seront nombreux, à s'engager pour la vie de l'Église dans un ministère de prêtre ou dans la vie consacrée. Donc là, les 2 années qui viennent, ça va être pour le service des jeunes. Et puis, on a également, suite à l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia sur la famille, engagé tout un chantier de formation sur la pastorale familiale, c'est-à-dire la préparation au mariage, l'accompagnement des couples et des familles, et puis l'accompagnement tout particulier des couples et des familles dans l'épreuve. Vous voyez, les chantiers ne manquent pas pour, je crois, dynamiser le diocèse et puis le mettre en perspective d'avenir.
En effet, Monseigneur, le travail ne manque pas, il y a du pain sur la planche.
Tout à fait.
Heureusement, j'allais dire, vous avez un soutien spirituel qui est la trappe de ces fonds, qui est probablement l'une des grandes richesses de votre diocèse. Peut-être, Monseigneur, pourriez-vous évoquer pour nos auditeurs cette abbaye qui nous est chère parce qu'elle est la sœur de notre trappe de Port du Salut et nous dire quelle importance sa présence priante peut revêtir pour le diocèse et pour vous.
Alors en effet, nous avons dans le diocèse l'abbaye de Ceffonds, une abbaye cistercienne qui est une grosse communauté. Il y a aujourd'hui près de 80 moines de nationalités diverses d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des Français, il y a des Chinois, il y a des Vietnamiens, il y a des Sénégalais également.
Des Tchèques.
Et des Tchèques, bien sûr, puisqu'ils ont fondé à Neuville-Vure. Donc une abbaye qui est en effet un poumon spirituel pour notre diocèse, hein, puisqu'un certain nombre de diocésains aiment à y faire retraite, à se ressourcer, ainsi qu'un certain nombre de prêtres. Mais plus largement, nous avons la chance dans notre diocèse d'avoir une présence de vie monastique comparée à d'autres diocèses importantes. Il y a donc en effet l'abbaye de Ceffonds dont nous venons de parler. Il y a également une abbaye bénédictine de femmes, l'abbaye de Chantelle, une petite communauté de femmes, elles sont 12 au cœur du diocèse. Et nous avons un Carmel et nous avons une visitation. Hein. C'est une visitation historique puisque c'est ici à Moulins que Jeanne de Chantal a rejoint le Seigneur. C'est là qu'elle est décédée. Et Jeanne de Chantal est très présente, ainsi que Saint-François de Sales, au cœur des visitandines de Moulins. Et donc ce dispositif de communauté monastique est pour moi essentiel. Et nous mesurons combien il est important pour nous autres qui sommes acteurs de la mission de l'Église diocésaine, hein, de pouvoir disposer, tout à côté de chez nous, au cœur même de notre diocèse, de lieux pour nous ressourcer et de lieux aussi, parce que ce soit les moines de Ceffonds, mais également les bénédictines de Chantel, nous savons que là, dans ces lieux, des moines et des moniales portent dans la prière le diocèse de Moulins et portent dans la prière celles et ceux qui sont engagés au service de l'évangélisation. Et nous avons, au mois d'avril de l'année dernière, ressuscité, entre guillemets, réanimé le grand pèlerinage au prieuré de Souvigny. Donc Souvigny, c'est la fille aînée de Cluny qui a été fondée en l'an 1000, où sont enterrés deux grands-pères abbés de l'abbaye de Cluny, Saint Mailleul et Saint Odilon, autour de l'an 1000. Et Souvigny a été, pendant tout le Moyen-Âge et à l'époque moderne, un des hauts lieux de pèlerinage de France. Donc nous avons réanimé, réactivé ce pèlerinage. Nous étions 2500 pèlerins le samedi 9 et le dimanche 10 avril dernier. Et tous les monastères du diocèse étaient représentés pour manifester justement ce lien qui existe ici chez nous, très fort, entre ceux qui sont dans le monde, au service de l'évangélisation dans le monde, et nos frères sœurs émoniales qui sont là dans leur clôture, dans leur monastère, mais au service, dans la prière, de l'évangélisation du diocèse. Voilà, je crois que ça, c'est pour nous une grande chance.
C'est une richesse que l'audit n'avait peut-être pas prise en considération, et je pense à un de vos frères dans l'épiscopat qui me disait « Hélas, que peut faire un pauvre évêque qui n'a plus une seule communauté contemplative dans son diocèse ?»
Vous voyez, moi, le diocèse de Chartres, hein, d'où je viens, puisque je suis originaire du diocèse de Chartres, nous avions une communauté contemplative qui était un Carmel, dont d'ailleurs j'ai été le curé, puisqu'elle était située sur ma paroisse, et qui a fermé il y a un petit peu moins d'un an. Et en effet, l'évêque de Chartres disant « Mais comment retrouver une communauté contemplative dans le diocèse ?» parce que c'est, je crois, indispensable aujourd'hui, en effet, à l'évangélisation.
Vous êtes, Monseigneur, sensible aux difficultés spécifiques et aux angoisses du monde rural. C'est un sujet qui ne peut qu'intéresser un diocèse agricole comme la Mayenne. Qu'avez-vous entrepris afin de renouer les liens avec le monde paysan et quelle est la place de l'Église dans les campagnes du Bourbonnais?
Ça, c'est un dossier qui est aujourd'hui en train d'être travaillé. Moi, je viens d'un diocèse qui était déjà rural. Hein. Alors, bon, Chartres, c'est l'Eure-et-Loir.
C'est la Beauce, c'est des...
Sud-ouest de l'Île-de-France. Diocèse rural, mais une ruralité très particulière avec les grandes plaines de Beauce. Et puis aussi un diocèse qui bénéficie du dynamisme de l'Île-de-France et de l'agglomération orléanaise. Donc les réalités sont très différentes, même si c'est la ruralité. Mais ici, nous avons une ruralité qui est essentiellement donc de l'élevage, un petit peu de céréales dans le Val d'Allier et dans le sud du département, mais essentiellement de l'élevage. Et donc le défi pour l'Église catholique est un défi de proximité, c'est-à-dire comment nos paroisses rurales, qui sont de vastes territoires, puisque les paroisses ont été réaménagées il y a quelques années, comment nos paroisses peuvent-elles rester en proximité d'une population qui, pour une part, vieillit et connaît l'isolement, et d'autre part, et là je pense aux agriculteurs, connaissent de grandes difficultés. D'abord, aujourd'hui, le monde agricole, mais comme jadis, occupe les agriculteurs de 6h le matin à pas d'heure le soir. Il n'y a plus d'ouvriers agricoles comme jadis. Beaucoup reposent sur le responsable de l'exploitation, avec des difficultés d'exploitation qui sont liées essentiellement à des problèmes économiques. Aujourd'hui, un agriculteur dans l'Allier, et comme dans beaucoup d'endroits de notre pays, ne vit pas de son travail. Il est obligé d'avoir un deuxième emploi ou l'épouse est obligée de travailler. Souvent, il ne vit que grâce aux subventions de l'État ou de l'Europe, et je crois qu'il n'y a rien de plus humiliant aujourd'hui pour un salarié, pour un professionnel, pour un responsable d'entreprise, que de ne pas pouvoir vivre de son travail et de pouvoir vivre que de ce qu'on peut lui apporter de l'extérieur. Lié, je crois, à cela dans le monde rural, un sentiment d'incompréhension, parce que l'agriculteur, aujourd'hui, ne fait pas qu'entretenir les paysages. Il entretient les paysages, il participe à la préservation de la nature, mais surtout, il contribue à nourrir les gens. Il contribue à faire en sorte que nous puissions vivre des richesses du sol et des richesses du monde animal aussi. Donc, c'est une vocation, le travail d'un agriculteur. Et aujourd'hui, il ne se sent pas reconnu, il se sent méprisé et surtout, il se sent un peu l'otage d'une mondialisation qui ne cherche qu'à faire de l'argent et des lobbies agro-industriels. Et ça, c'est très difficile et ça impacte profondément le monde rural. Et donc, nous avons, je crois, à la fois, nous, Église catholique, d'assurer une présence d'Église au plus proche des gens dans les services que l'Église rend, d'accompagnement spirituel, de préparation au sacrement, d'aider les gens à vivre les grandes étapes de la vie dans la foi au Dieu de Jésus-Christ, mais aussi à accompagner ce monde rural pour lui redonner espérance au nom de l'Évangile qui nous anime. Et jadis, que ce soit en Mayenne ou dans l'Allier, il y avait des mouvements d'action catholique qui étaient très puissants. La jeunesse agricole, le mouvement chrétien dans le rural, étaient des mouvements puissants qui d'ailleurs ont donné et ont formé un certain nombre de militants du monde agricole. Aujourd'hui, je pense aux chambres d'agriculture ou au syndicalisme agricole. Aujourd'hui, ces mouvements sont en grande difficulté. Et moi, dans l'Allier, le CMR, donc chrétien au monde rural, il ne reste que deux ou trois équipes et l'ancienne Jacques n'existe plus. Et nous avons donc à réinventer une nouvelle manière d'être présent au monde rural aujourd'hui. Alors, comment je m'y prends? Déjà, j'essaie d'être présent aux manifestations du monde rural. Ça peut apparaître un peu curieux, mais nous sommes quelques évêques de France à être allés, par exemple, l'année dernière, nous étions une délégation de 15 évêques de France, nous sommes allés au salon d'agriculture pour manifester notre attachement au monde rural et notre désir d'accompagner les agriculteurs. Et à cette occasion-là, nous avons eu beaucoup de témoignages, beaucoup de contacts. Pour ma part, ici, dans l'Allier, j'ai participé au forum de l'herbe et du fourrage. Alors, ça peut paraître un peu surprenant, mais il existe en France chaque année, alors ça tourne dans les régions de France, une grande foire exposition pour les éleveurs dans le domaine de l'herbe et du fourrage. Et ça rassemble des centaines de milliers de gens qui viennent passer dans ce salon. Et il a eu lieu dans l'Allier l'année dernière, donc j'y suis allé. Là aussi, j'ai eu beaucoup de rencontres, et pas seulement avec les représentants des syndicats agricoles, mais avec des agriculteurs qui étaient là présents et qui ont pu me faire part de leurs difficultés. Et puis, depuis maintenant 3 ans, j'essaie régulièrement, 2-3 fois par an, d'organiser dans quelques coins du département des repas avec quelques agriculteurs. Donc, je demande à une famille d'agriculteurs que je connais d'inviter des agriculteurs pour passer une soirée un peu à bâton rompu, pour les écouter, partager leurs difficultés, leurs soucis, et puis aussi leur redonner espérance. Et puis, j'ai demandé au mouvement chrétien en monde rural aussi de réfléchir un peu à de nouvelles manières de rejoindre le monde agricole pour cheminer avec celles et ceux qui souhaiteraient, tout simplement, au nom de leur foi, relire leur vie à la lumière de l'Évangile. C'est très embryonnaire, ce que je vous raconte là, c'est tout petit.
C'est très ambitieux.
Mais nous avons, je crois, un grand défi. Parce que je crois que l'Église, de par son histoire, puis de par l'Évangile, à la suite du Christ, qui s'est fait proche de tous, nous avons à accompagner ce monde rural et à y être présent et à lui dire qu'il peut compter sur l'Église pour retrouver espérance. Et puis, c'est aussi, je crois, parce que faudrait pas croire qu'il n'y a que l'Église qui fait des choses. Moi, je suis assez sensible aussi dans le monde rural à tout ce qui se cherche aujourd'hui pour trouver de nouveaux chemins à la ruralité.
Monsieur.
Je pense aux rencontres que j'ai pu avoir avec les élus, avec les maires au cours des visites pastorales, qui travaillent beaucoup pour rendre attractif le monde rural, parce que le monde rural, il ne se borne pas qu'aux agriculteurs. Le monde rural, c'est aussi tout un réseau de petites entreprises, le monde de l'artisanat, le monde du tourisme vert aussi, qui se développe beaucoup. C'est aussi un patrimoine. Moi, j'ai ici, dans l'Allier, j'ai le deuxième patrimoine de France en termes d'églises romanes. J'ai un réseau d'églises romanes absolument extraordinaire. Donc, comment on fait rayonner ce réseau, rayonner ce patrimoine spirituel? Donc voilà, il y a beaucoup d'énergie dans le monde rural aujourd'hui, qui ne se donne pas à voir, mais qui est vraiment à l'œuvre. Et moi, j'essaie d'être attentif à tous ces acteurs qui cherchent à le valoriser, à le développer et à le faire connaître.
Monseigneur, vous qui êtes de la région chartraine, terre mariale par excellence, quel rôle Notre-Dame a-t-elle tenu dans votre vocation, dans votre vie de prêtre et maintenant dans votre épiscopat?
En effet, c'est une question essentielle. En effet, je viens d'une terre mariale. Nous avons la cathédrale Notre-Dame de Chartres, qui abrite le voile de la Vierge, qui est un élément qui attire depuis des siècles de nombreux pèlerins. Et c'est vrai que le diocèse de Chartres, donc c'est l'Eure-et-Loir, l'Eure-et-Loir est un département hétérogène qui a été tracé à la Révolution, autour de la ville de Chartres, comme on traçait les départements jadis autour d'une métropole. Et ce qui fait l'identité du diocèse de Chartres, c'est précisément la cathédrale et le culte marial. Et Marie, dans ma vie de prêtre et dans mon épiscopat, a toujours été pour moi celle qui s'est abandonnée à la volonté de Dieu. Puis je vous rappelais tout à l'heure cette parole de l'ange Gabriel à Marie, « Ne crains pas, rien n'est impossible à Dieu ». Moi, c'est une parole de Marie et de l'ange Gabriel qui m'a toujours habité. Je crois que le Seigneur nous appelle à le suivre, et à chaque fois qu'il nous appelle, on est toujours dans la crainte, parce qu'on ne voit pas bien ce qu'il nous demande. Et la mission, parfois, nous paraît démesurée. Je me souviens très bien de l'époque où j'étais travaillé par l'appel à entrer au séminaire et à devenir prêtre, alors que je me préparais à devenir enseignant et que ce projet professionnel, je le portais depuis des années et que j'aspirais vraiment à devenir enseignant en histoire, géographie. Il est venu me chercher, ça a été un vrai combat, la mission me semblait impossible. De la même manière, quelques jours avant mon ordination de prêtre, et ô combien quand le nonce apostolique à Paris m'a demandé rendez-vous et qu'il m'a annoncé que le pape Benoît me nommait évêque de Moulins. Ne crains pas, rien n'est impossible à Dieu. L'idée que Dieu ne demande rien qu'il ne nous donne la force de l'accomplir. Il nous donne toujours les moyens d'accomplir ce qu'il nous demande. Et Marie est vraiment cette aventurière de la foi qui a su croire à l'impossible jusqu'au bout, y compris au calvaire, au pied de son fils mourant et agonisant. Marie a toujours été celle qui a été habitée par l'espérance. Et on la retrouve à la Pentecôte, recevant l'Esprit-Saint avec les apôtres. Cette espèce de ténacité dans la foi, cette espérance chevillée au cœur de Marie qui jamais n'a douté ou qui pour le moins, même quand elle a pu douter, et l'Évangile nous montre qu'il y a eu des moments de sa vie où elle s'est sans doute interrogée sur la volonté de Dieu, n'a jamais désespéré et a toujours été fidèle à son oui et à la parole de Dieu des commencements au jour de l'Annonciation. Et ici à Moulins, c'est aussi une cathédrale Notre-Dame que j'ai reçue ici en arrivant, avec une statue très très ancienne, une Vierge noire, portant l'enfant Jésus, certainement médiévale. Et d'ailleurs, la collégiale du château des ducs de Bourbon de Moulins, qui est devenue la cathédrale aujourd'hui, a été construite autour de cette statue. Et à l'époque des ducs de Bourbon, et même avant, il y avait un pèlerinage très important à Notre-Dame de Moulins. Et la Vierge de Moulins, d'ailleurs, a protégé Moulins, dit la très belle tradition, contre les invasions et contre les périls qui ont marqué la ville, entre autres un grand incendie au début de l'époque moderne. Donc ici aussi, il y a un grand attachement à Marie. Et puis nous avons à Moulins quand même, et j'espère que vos auditeurs le savent et je les invite à le contempler, ce fabuleux triptyque de Moulins, peint par un anonyme, un inconnu, qu'on appelle le maître de Moulins, probablement de l'école flamande, qui, au XVe siècle, alors que la cour des ducs de Bourbon était une des cours les plus florissantes de France, a donc peint ce fabuleux triptyque qui nous présente Marie offrant son fils, une vierge couronnée. Non seulement c'est un des fleurons de l'art du XVIe siècle, puisque c'est au tout début du XVIe, et qui est une véritable leçon de catéchèse quand on contemple ce tableau, parce qu'il est riche de tant et tant de symbolisme qui manifeste la foi de celui qui l'a peint. Les diocésains de Moulins sont également très attachés à Marie, sans compter les nombreux lieux de pèlerinage dans le diocèse qui sont consacrés à Marie.
Aimeriez-vous, Monseigneur, un renouveau marial, non seulement de votre diocèse, mais de la France entière, et vous semblerait-il nécessaire, voire d'actualité? Si oui, quelles initiatives aimeriez-vous prendre en ce sens?
Renouveau marial, je ne sais pas s'il faut parler de renouveau, en tout cas de redécouverte de cette spiritualité mariale. Marie, à la fois, hein, qui, je vous le disais, est celle qui a dit oui à l'impossible et qui nous ouvre le chemin d'un abandon à la volonté de Dieu sur nos vies, dans la confiance. Marie aussi qui se présente comme l'intermédiaire, comme celle qui nous présente et nous offre à son fils. Je crois que l'évangile des noces de Cana est très riche en ce sens.
Et très cher aux Mayennais, c'est l'évangile de la messe de Notre-Dame de Pomain.
Tout à fait. Ils n'ont plus de vin ou ils n'ont pas de vin, selon les traditions. « Femme, que me veux-tu? Faites tout ce qu'il vous dira. » C'est-à-dire que là encore, Marie dépasse la première remarque de son fils, qui peut paraître désagréable, pour dire au serviteur « Mais faites confiance, faites tout ce qu'il vous dira. » Et les serviteurs qui obéissent à Marie et qui accomplissent un geste qui peut paraître un peu fou, qui est de remplir d'eau ces fameuses jarres de purification. Et donc je crois qu'on a aussi à redécouvrir Marie comme celle qui est chez nous et qui nous ouvre la porte vers son fils. Et s'il y a des initiatives à prendre, je crois que nous avons dans nos diocèses, que ce soit en Mayenne avec Pomain, bien évidemment, ou nous ici, nous avons tous dans nos diocèses des lieux de pèlerinage, Mario. Nous avons beaucoup à travailler sur la piété populaire, qu'on a peut-être trop négligée ces derniers temps.
Hein, peut-être c'est-à-dire même un peu méprisée parfois.
Oui, sans doute, mais on a à redonner sens, c'est-à-dire à, je crois qu'on a à réévangéliser d'une certaine manière ces lieux de piété populaire pour permettre à celles et ceux qui les fréquentent, et tout particulièrement les lieux de pèlerinage à Marie, pour retrouver justement ce Dieu qui vient à notre rencontre, qui par Marie est venu à notre rencontre pour nous donner le sauveur du monde. Moi, j'ai été assez sensible en présidant un certain nombre de petits pèlerinages locaux dans l'Allier au fait qu'on y rejoint des gens de toute génération, de toute condition, qui ne sont pas forcément des pratiquants très réguliers, mais qui viennent là, non pas pour le folklore, mais parce qu'ils se sentent accueillis, ils se sentent reconnus, et ils découvrent un Dieu qui les rejoint dans ce qui fait leur quotidien, hein, qui est fait de joie, mais qui est aussi fait de difficultés et de souffrances. J'invite vraiment les paroisses qui ont des lieux de pèlerinage à tout mettre en œuvre pour les faire rayonner et les faire connaître.
Je suis persuadé, Monseigneur, qu'avec ce genre de projet, le prochain audit du diocèse de Moulins sera bien différent du précédent.
Ah merci, je l'espère aussi.
Non, mais je suis certaine qu'avec l'aide de Saint Mailleul, de Saint Odilon, de la Sainte Vierge, Sainte Jeanne de Chantal, il s'accomplira avec l'Esprit Saint des choses tout à fait splendides. Je vous remercie, Monseigneur, d'avoir participé à cette émission.
Merci beaucoup, Madame.
Merci encore, Monseigneur.
Je vous en prie.